Tech & Co.
Le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business. On va parler maintenant satellite. Parce que peut-être que vous êtes en train de regarder BFM Business à la télévision par satellite justement, et mon invité bien s'occupe de l'un des premiers fournisseurs d'images par satellite finalement. Il s'agit de Telsat. Et j'accueille avec plaisir sur ce plateau David Bertolotti. Bonsoir David.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des affaires institutionnelles et internationales de Telsat. Voilà, Telsat qui est un acteur majeur de la télévision broadcast par satellite depuis 1970.
Métier historique.
Voilà,
ouais.
Depuis 1977.
Hein,
vous faites partie des trois premiers gros fournisseurs de services broadcast de télé dans le monde. Voilà, vous avez une flotte mondiale de 36 satellites. Vous diffusez 7000 chaînes opérées par les plus grands groupes de télévision, 1200 collaborateurs originaires de 50 pays. Et oui, parce que quand on s'occupe comme ça de satellites, il faut avoir des gens partout sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est que Eutelsat existe donc depuis 1977 et votre métier n'a pas arrêté d'évoluer finalement, parce que s'il y a bien un métier qui reflète l'évolution technologique, c'est bien sans doute le satellite, hein, qui évolue avec le temps, la radio, la télévision, et puis maintenant l'internet. On a l'impression aussi que votre métier est en train de changer, non, chez Telsat?
Absolument. Vous avez très bien résumé notre activité et son histoire. Donc c'est vrai qu'on est né en 1977. D'ailleurs d'une idée très intéressante qui est très actuelle encore aujourd'hui, qui était celle de donner une certaine souveraineté à l'Europe dans ses télécommunications. Alors à l'époque c'était pour la téléphonie et la télévision. Aujourd'hui on parle de souveraineté pour d'autres choses et je pense qu'on va en reparler, mais c'était bien l'idée. Et donc effectivement nous sommes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans ce domaine de la diffusion télévisuelle. Alors on n'est pas toujours très connu sous notre nom de Telsat, en tout cas du grand public, parce que nos clients ce sont plutôt des chaînes de télévision ou des distributeurs.
Et finalement les personnes qui vous reçoivent via une parabole ne savent pas qui pointe sur un satellite qui vous appartient.
Alors pas forcément, voilà. Pas forcément. Alors en France peut-être certains connaissent Fransat,
oui.
Voilà notre service notamment dans les zones blanches, mais
qui
effectivement
permet, tout le monde de recevoir les chaînes de la TNT,
voilà, même
plus d'autres chaînes en fait.
Absolument. Mais effectivement ailleurs dans le monde où la télévision est encore pas mal reçu par satellite, hein, parce que c'est vrai que en France, en Europe, on évolue vers de nouveaux modes.
Oui,
de
la
diffusion.
Télé IP et donc la fibre.
Exactement. Voilà. Mais ailleurs, ça reste quand même un aspect important. Mais c'est vrai que ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle chez nous un pivot des télécoms vers en fait des usages de connectivité. Qu'il soit fixe, l'internet chez soi ou dans les entreprises, ou en mobilité, parce que aujourd'hui on commence à prendre des habitudes d'avoir l'internet en avion quand on fait des vols intercontinentaux. Les compagnies maritimes ont besoin aussi d'internet, que ça soit dans la croisière pour les touristes ou de manière très professionnelle pour les navires de commerce.
Mmh.
Donc ces usages de connectivité sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, on estime que c'est un marché qui va exploser, qui va plus que tripler d'ici 2030 pour atteindre une valeur de 16 milliards de dollars. Donc les enjeux économiques sont aussi considérables.
Avec une concurrence qui est phénoménal et surtout de nouveaux acteurs qui arrivent privés comme Elon Musk qui lance donc Starlink. Personne l'avait vu débouler et puis d'un coup c'est lui qui squatte qui est l'un des leaders on va dire de l'internet très haut débit par satellite avec sa constellation qui, rappelons-le, à terme mettra en orbite plusieurs dizaines de petits satellites pour couvrir la Terre entière. C'est étonnant comme ça que des acteurs privés vous doublent carrément avec de l'innovation, non ?
Alors, nous doublent, vous êtes un peu sévère là.
Non, pas doublé, mais en tout cas vous challenge alors qu'il y a encore quelques années, il n'existait pas.
Absolument, et je crois que ça prouve d'abord une chose, c'est que là où se passe aujourd'hui la révolution du spatial, c'est bien dans les télécoms. On a connu depuis les années 90 une révolution dans le domaine de l'imagerie. Mmh. On a connu aussi une évolution dans le domaine de la navigation, le GPS, Galileo, tout ça s'est répandu. Aujourd'hui, effectivement, on a une nouvelle révolution qui touche cette fois-ci le domaine des télécoms, alors avec des nouveaux acteurs. Alors ceci dit, c'est pas pour autant qu'il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain. Et nous, chez Eutelsat, depuis nos positions traditionnelles dans l'espace, c'est-à-dire les orbites géostationnaires à 36 000 km, on fait déjà aujourd'hui de l'internet très haut débit en France, en Europe, en Afrique, à des tarifs très abordables d'ailleurs, et qui rencontrent leur marché.
Mais effectivement, qui n'ont pas les débits de Starlink, qui ont une latence qui est beaucoup plus élevée, parce que justement, comme le satellite est à 36 000 km d'altitude, aller-retour, voilà, c'est compliqué pour certains usages, etc. Voilà. Donc, on voit que tout ça aussi est en train d'être redistribué. On va parler de OneWeb, un service que vous êtes en train de racheter, parce que je crois que c'est pas encore véritablement officiel. Ça va se décanter l'année prochaine. Mais donc, voilà. Aujourd'hui, vous allez, ça veut dire que Eutelsat va se repositionner sur la connexion Internet par satellite.
Absolument.
Mais pas laisser tomber le broadcast, quand même.
Pas laisser tomber le broadcast, non, bien entendu, ça reste un axe très important pour la société, mais effectivement, l'avenir, on le voit dans la connectivité, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu prendre pied solidement dans ce domaine. Deux des quatre derniers satellites qu'on a lancés récemment sont dédiés à ça, et en plus, effectivement, on prend pied dans l'orbite basse. C'est la raison pour laquelle l'année dernière on a pris...
Il sera un service équivalent à celui de Starlink. Hein,
absolument, on a pris une participation dans OneWeb. Et aujourd'hui, il faut bien en être conscient, hein, il y a deux constellations qui ont des services opérationnels d'Internet par satellite et deux seulement. Il y a Starlink, oui, c'est vrai, mais il y a OneWeb aussi qui a ses services ouverts en Amérique du Nord, Alaska, Canada, au Groenland et qui... termine de développer sa constellation, qui d'ailleurs est plus petite que celle de Starlink, hein, 648 satellites seulement, donc aussi plus
mais avec la même
amical
qualité de
pour l'environnement spatial.
Avec la même qualité.
Exactement la même qualité de service.
Alors pourquoi il y en a un qui lance 40 000 satellites et vous, avec 600, vous avez la même qualité? C'est bizarre, non?
Alors, on a des satellites conçus un peu différemment. On a des satellites qui sont un tout petit peu plus hauts. On est toujours dans les orbites, ce qu'on appelle basses, mais un peu plus haut. Hein. Nous, on est aux alentours de 1200, 1500 km. Donc, on voit un peu plus
voilà.
De choses.
Et donc, un peu plus de latence.
Honnêtement, c'est insensible. Autant il y a une vraie différence entre ce qu'on appelle donc le LEO, les basses orbites, et le géostationnaire, autant entre 500 et 1500, c'est indifférent. Et je peux vous dire, moi, j'étais encore la semaine dernière à notre téléport de Rambouillet, à côté de Paris, où on a installé des antennes OneWeb et on fait des tests en ce moment. Alors même que la constellation n'est pas encore entièrement déployée, on a des vitesses de connexion absolument incroyables. Incroyable.
Et en plus, donc, il y a Starlink. Donc il y a OneWeb qui va être développé. Quand est-ce que sera terminé le service et opérationnel à 100%?
Alors fin d'année prochaine.
D'accord.
Fin d'année prochaine. Donc on ouvre progressivement
avec des offres commerciales qui arriveront donc l'année prochaine.
Avec des offres commerciales qui sont déjà là où le service est disponible.
France,
alors pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Avec surtout beaucoup de clients, je dirais, dans notre pipeline de projets, parce qu'on a plein de clients intéressés et on a surtout plein de clients intéressés par quelque chose qui est très spécial à la combinaison Eutelsat OneWeb que n'a pas Starlink, c'est justement cette combinaison des orbites entre le géostationnaire et les orbites basses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui continueront d'être très bien faites par des satellites en orbite géostationnaire parce que vous n'avez pas spécialement besoin de latence, parce que vous avez plutôt besoin de quelque chose de fiable, de robuste, de pas cher. Et puis, pour certains usages qui nécessitent effectivement une faible latence pour du trading financier,
là,
pour des utilisateurs gouvernementaux.
Voilà. Passe à OneWeb.
Et on va passer de l'un à l'autre grâce à la technologie Eutelsat OneWeb.
Un mot, David, sur un autre projet de constellation et de satellites donc pour couvrir l'internet européen. Il s'agit du projet IRIS qui a été donc validé par l'Union européenne. Là, on peut parler vraiment de souveraineté, puisque c'est un projet 100% européen. Et vous êtes aussi dans la boucle pour être prestataire, en quelque sorte, de ce service, Iris. Même si c'est un peu trop tôt pour le dire, puisque je crois qu'il devrait être opérationnel en 2027.
Alors, Iris, effectivement, c'est un projet, aujourd'hui. Là où Starlink et OneWeb sont des constellations en service.
Il y aura Kuiper aussi d'Amazon, on n'en a pas parlé, mais Jeff Bezos va arriver aussi.
Il y aura sans doute Kuiper. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une course aussi pour se positionner, parce que on utilise des fréquences qui sont en quantité limitée, donc il y a un vrai avantage à celui qui arrive en premier, hein. Et d'ailleurs, comme historiquement OneWeb a été la première constellation à poser ces fréquences, on a une priorité, on est bien servi. L'Union européenne s'est saisie aussi du dossier, elle veut une constellation, alors avec un objectif principal en tête, qui est d'avoir des services plutôt gouvernementaux et sans doute
couverture des zones blanches aussi,
secondairement, voilà, de faire de la couverture de zones blanches, d'offrir d'autres types de services.
Et avoir une souveraineté, on va dire, territoriale de l'internet par satellite.
Ce qui se comprend, parce que c'est très important, et nous on ne dit pas autre chose chez Eutelsat avec notre héritage européen. C'est très important, c'est même stratégique pour l'Europe de pas être distancée dans cette course entre des géants américains, sans doute aussi demain une constellation chinoise. Donc il faut qu'on y soit. Et d'ailleurs, nous, ce que nous disons à l'Union européenne, d'ailleurs je crois que c'est ce que dit aussi la France, le gouvernement français, c'est que dans ce projet Iris, il y a un acteur européen, français, Eutelsat, qui est en train d'amener vers l'Europe une constellation qui n'était pas européenne à l'origine, OneWeb.
Oui, puisque rappelons qu'il y a pas mal d'investisseurs de différents pays, notamment l'Angleterre, qui ne fait plus partie d'ailleurs de l'Union européenne.
Voilà, mais aujourd'hui, il y a des actionnaires français, il y a le savoir-faire d'Eutelsat, il y a d'ailleurs aussi aujourd'hui le savoir-faire des industriels français, parce que les satellites de OneWeb sont fabriqués par
Alors, qu'est-ce que vous revendiquez, le fait que Iris puisse être OneWeb? Ou est-ce que ça pourrait être une déclinaison de OneWeb, Iris?
Ce qu'on dit, en tout cas, c'est que OneWeb, avec son savoir-faire, avec sa deuxième génération déjà qui est en cours d'élaboration, qui va arriver à peu près dans les mêmes dates, on peut contribuer à dérisquer, en quelque sorte, économiquement et techniquement, le projet européen.
Oui, parce que, dernière question, ça va faire quand même beaucoup de concurrence pour ces services par satellite. Si on a Starlink, si on a Jeff Bezos avec Kuiper, si on a OneWeb, si on a Iris, et on peut imaginer que, comme vous disiez, la Chine puisse aussi sortir son service, il y aura énormément de concurrence, peut-être un peu trop.
Il y a du monde sur la fréquence, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est certain. C'est pour ça que c'est très important d'être là en premier. Et encore une fois, vraiment, j'insiste sur cette importance d'avoir les meilleures fréquences, de se déployer rapidement. Après, voilà, chacun a aussi ses créneaux, du gouvernemental, plutôt tourné vers des clients individuels, plutôt tourné vers les opérateurs de télécommunications. On est aussi dans un environnement où les besoins s'accroissent. Mais effectivement, voilà, faisons aussi attention de ne pas multiplier les initiatives, de ne pas nous tirer des balles dans le pied
non plus.
Et sachons nous appuyer sur les atouts que nous avons en Europe avec ces opérateurs, ces constructeurs, ces lanceurs aussi.
Mmh. On va suivre tout ça de près. Enfin voilà, l'année 2023 va être décisive, sans aucun doute, pour tous ces sujets. Merci beaucoup, David Bertolotti, directeur des affaires institutionnelles et internationales d'Eutelsat. Voilà, merci.
Merci encore.
Et vous restez avec nous 20h30 sur BFM Business bientôt. Faiza Younsi arrive pour l'info éco et on revient juste après. À tout de suite.